Léon Richoux et Gilles Perret, bonsoir.
Bonsoir.
À tous les deux. Bonsoir, parce que c'est bientôt l'avant-première de votre film au cinéma Scala à Genève. Il n'y a pas Lausanne. Il y a eu plein de petites villes en Suisse. Vous avez fait déjà plein d'avant-premières en France. Et là, vous êtes venu en voisin, à 30 km à peu près, pour nous parler de la ferme des Bertrands. Vous aviez déjà rencontré la famille des Bertrands il y a 25 ans, en 97, en 97 en français. Et vous avez dans votre film, qui sort maintenant, des archives de 72. Donc c'est vraiment une famille que vous côtoyez en tant que voisin et vous avez suivi l'évolution de leur exploitation. Vous avez travaillé à quatre mains. Comment avez-vous procédé à quatre mains ?
Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'ai grandi, j'habite toujours et j'ai toujours habité à côté de la ferme des Bertrands, qui est à moins de 100 mètres de la maison. On avait envie de ressortir ce film de 97, dans lequel on avait déjà intégré des images de 72 qui avaient été faites pas par moi, mais par Marcel Trier à l'époque. Avec Marion, on se disait, ce film, il avait été très peu vu, en fait, à l'époque, mais il avait été primé dans quelques petits festivals, notamment au Diableret chez vous. Mmh. Et puis, finalement, on s'était dit, moi, je connaissais rien à rien, je viens pas de ce monde-là, et donc, je connaissais pas comment ça marchait au cinéma. Et là, maintenant qu'on s'y connaît un petit peu plus, on s'était dit, on devrait ressortir ce film de 97 pour le faire voir à un peu plus grande échelle, parce qu'il avait quand même marqué les gens, quoi. Et puis, on s'est dit, plutôt que faire une simple ressortie, on habite toujours là, la ferme est toujours là. Il y a Hélène, que je filmais au moment où elle reprenait la ferme il y a 25 ans, qui va partir à la retraite maintenant. Il y a cette histoire de robots, donc c'est le moment de prendre la caméra et de les refilmer pendant 4 saisons, comme je les avais filmés pendant 4 saisons en 1997, de remélanger un peu toutes ces périodes sans forcément faire un film chronologique. Et puis voilà, on est parti comme ça.
Alors Marion, vous connaissiez précédemment le travail de Gilles, mais là vous êtes arrivée sur ce projet qui avait déjà donc quelques décennies quand même d'existence. Comment vous êtes arrivée sur ce projet ? Quelles ont été vos approches ?
Alors on travaille depuis une dizaine d'années déjà ensemble avec Gilles. On avait précédemment écrit déjà un film de fiction ensemble. Donc on a une méthode, je ne sais pas si elle est particulière, mais en tout cas c'est la nôtre. On échange beaucoup à l'oral et puis après moi je mets souvent en forme ce qu'on se dit à l'écrit. Et Gilles revient derrière dessus. Donc comme le disait Gilles, c'était vraiment une envie parce que c'était un film qui nous plaisait à tous les deux et on n'imaginait pas qu'on rencontrerait comme ça un public. C'est vraiment une belle surprise de cette petite envie née il y a 2-3 ans.
Et puis,
je l'avais vu à l'époque bien sûr et je connaissais pas Gilles, mais ce film il m'avait marqué. Et donc on est reparti avec la même toute petite équipe, puisqu'on est, on a travaillé tous les deux avec le monteur de l'époque, Stéphane Perriot, qu'il faut citer parce qu'il a fait également un super boulot. C'est un film de montage aussi, beaucoup et avant tout, je crois.
Là, vous mentionnez, Marion, le montage. Vous aviez combien d'heures ? De pellicule, ça se dit plus, mais enfin, vous me comprenez.
Ouais, on devait avoir sur la période 2022, on devait avoir une quarantaine d'heures d'images. On est allé rechercher les rushs de 1997, donc on devait avoir beaucoup, peut-être 80 heures en tout. Mais on a pris quand même des parties déjà montées du film de 97. Donc c'est pas énorme en fait. C'est pas un film très compliqué à monter séquence par séquence parce que les Bertrands sont des gens qui ont la pensée très structurée, qui s'expriment très bien. Donc quand ils ont envie de dire quelque chose, il y a un sujet, un verbe, un complément, c'est posé. Donc c'est assez confortable pour nous pour monter ça. Après, effectivement, comme disait Marie, c'est un film de montage, c'est comment on imbrique un petit peu tout ça, quoi. Voilà. Donc en fait, et puis surtout, c'est que notre méthode de travail, moi, comme j'aime bien travailler, j'aime bien qu'on travaille en amont, en écriture, bien préparer les choses, ce qui fait que quand on va tourner une séquence, même si ce sont des voisins, on sait ce dont on veut parler et en gros ce qu'ils vont nous dire parce qu'on se connaît quand même très bien. Donc du coup, ça évite de tourner à chaque fois, de faire ma vie, mon œuvre et puis d'avoir des tonnes d'heures de rush. Mais on se focalise vraiment sur le sujet qu'on a envie d'aborder à l'endroit où on veut l'aborder. Donc ça permet de gagner du temps et des heures de rush.
Ce que je comprends d'après vos propos, c'est que vous avez quand même beaucoup travaillé pour avoir après 1h30 de film.
Oui.
Donc il y a eu beaucoup de choix quand même, à la fois du fond et peut-être de la forme.
Oui, c'est sûr que c'est le boulot normal de montage. Hein. On part d'un grand tas d'heures d'images et puis on ramène ça à 1h30. Mais c'est pas... on se fait pas forcément mal.
Il faut toujours. Il n'y a pas de
violence. Non, il faut toujours penser au spectateur. Moi, je me mets toujours à la place du spectateur. Il faut éviter les redites, prendre les moments forts. Et puis, il faut que ce soit un film qui fasse rire, qui fasse pleurer. Comment on met tout ça, comment on orchestre tout ça. Mais ça, c'est notre métier. C'est ni mieux ni moins bien que les autres métiers. Mais en tout cas, on essaye, nous, de le faire de la meilleure manière qui soit. Puis que, le spectateur se retrouve là-dedans, quoi.
Je crois que c'est quand même un film aussi assez personnel pour Gilles et qui aime beaucoup aussi son village où il est né, où il vit encore. Et de filmer son village, ça, puisqu'on parlait de fond, de forme, ça a du sens pour lui et de le mettre aussi en valeur. On voit, enfin, l'image est belle aussi, hein, on voit le hameau avec ses plans d'ensemble qu'on retrouve aujourd'hui et qu'on peut comparer avec les plans donc de 97 et même de 72. Donc c'est aussi dans la forme, je crois, que le film est beau.
Alors Marion, Gilles, vous parliez d'émotion. Ce que j'ai retenu en voyant le film, c'est qu'il y a beaucoup d'humilité toujours de la part des Bertrand. Et justement, vous mentionnez aussi le phrasé, par exemple, des frères, en particulier André avec ses moustaches qui sont vraiment tout à fait reconnaissables à travers le temps. Et ça change l'image que donnent les médias généralement du monde agricole et des paysans.
Ah ben, ça c'est un de mes chevaux de bataille.
Bon. Chevaux.
C'est un de mes chevaux de bataille. De redonner de la dignité par l'image et par les propos à des gens qui sont des fois mal considérés ou mal filmés, mal montrés, dénigrés. Et c'est le cas des agriculteurs, comme les ouvriers, etc. Et c'est vrai que vous citiez André avec ses moustaches. André, si on lui donne 10 secondes dans un journal télévisé, on va dire c'est un pauvre gars qui n'a jamais bougé de son village, il ne doit pas avoir grand chose à nous dire, il est resté célibataire, dommage pour lui, quoi. Et puis ça va être regardé avec beaucoup éventuellement de la condescendance ou alors même de la moquerie
Et de l'arrogance. On va le prendre surtout quand les médias vont voir les paysans, en général ils les prennent au sortir du travail,
Et donc là, quand on a la chance de travailler en documentaire et de donner du temps à des gens comme André, on se rend compte qu'André est d'un niveau de réflexion intellectuelle, et alors qu'il n'est pas allé à l'école beaucoup, qui est bien au-dessus de la moyenne.
Et une connaissance.
Il sait de quoi il parle, et quand il développe un thème, c'est le fruit d'une réflexion intense, on ne parle pas pour rien dire, et c'est d'un niveau qui est, à mon avis, bien au-delà de tous ces experts en tout qu'on a sur les chaînes d'info en permanence.
C'est mon avis. Et par rapport justement à ce qu'on mentionne, l'humilité, la connaissance, il y a aussi beaucoup d'humour. Moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est quand ils vont ouvrir comme ça en catimini les portes de l'étable pour faire la surprise aux vaches qu'elles vont retrouver le pâturage.
Oui, en tout cas, l'humour, moi, que ce soit des films que, en général, dans tous les films que je fais, ceux que j'ai fait en co-réalisation avec François Ruffin, on aime bien, dès qu'il y a moyen d'avoir un peu d'humour, on aime bien utiliser ça, parce que l'humour, ça fait redescendre la tension quand il y a de l'émotion, ça fait dédramatiser des choses. Puis aussi, c'est aussi une méthode narrative qui fait qu'on tient le rythme et qu'on ne s'ennuie pas. Et c'est la vie, en fait. Et les gens, ils aiment bien rire. Et donc, du coup, nous, on aime bien quand le public rit. Et on aime bien aussi faire des films qui soient aussi positifs. Et c'est vrai que là, pas plus tard que hier soir, puisqu'on tourne en Suisse là, depuis 3-4 jours, de voir les gens qui sortent en disant on se sent bien en sortant, on est content. Il y a de l'optimisme. Et c'est vrai que même sur des questions plus politiques, l'optimisme, si on sort pas complètement déprimé de la salle de cinéma, on a plus envie de se battre ou en tout cas d'être actif dans sa vie que si on sort complètement déprimé, quoi.
Et puis ça contrecarre un peu le pessimisme qu'on ressent de temps en temps chez André.
C'est sûr que faire de l'humour avec le plus pessimiste de la Terre, c'est plutôt agréable.
C'est un défi.
C'est de loin André qui est le plus cinglant et le plus drôle dans le film, quoi, de par son pessimisme structurel.
On ne va pas tout déflorer du film, mais je le trouve très drôle quand il va dans le poulailler et qu'il dit « Ah voilà, mon nouveau troupeau ». Il est quand même un peu comme moi, voûté.
Non, c'est un personnage, André, un personnage de cinéma. Alors, Il est à la fois attachant, il est à la fois, ben, il a une vision de la vie et une analyse sur son parcours qui est incroyable.
Clairvoyant.
Ah oui, oui. Et puis il ose dire des choses qui sont d'une force, enfin qui saisit, je crois, le spectateur. En tout cas, nous on a des témoignages tous les soirs dans ce sens-là. Et puis on a l'image d'un corps qui est plié en deux aujourd'hui, mais on a aussi l'image de 72 où il est fort, il est magnifique dans son à taper les cailloux au moment où ils construisent la stabulation.
Ce sont ni des cantonniers ni des erreurs de paix.
Et ça raconte leur travail, ça raconte leur vie, leur vie de travail. Et André est pour moi le vrai personnage, un personnage de cinéma.
Et pour revenir justement aux trois frères, à un moment donné, c'est, il me semble, Joseph, si je ne me trompe pas, qui dit on aurait bien voulu avoir une famille. Puis après, on dit on a réussi au niveau professionnel, l'exploitation, puis c'est un échec au niveau privé. Bon, nous, on ne le voit pas forcément comme ça en tant que public, mais on sent qu'il y a des regrets pour les trois frères.
Oui, bien sûr, c'est révélateur de cette génération qui aurait 90 ans aujourd'hui. André est le seul à être en vie, qui ont vécu l'exode rural. Et c'est vrai que nous, dans les montagnes, mais c'est vrai aussi vous en Suisse, cette période-là, tout le monde partait. Moi, c'est à l'époque où j'étais vraiment gamin dans le village et tout le monde se barrait. Et nous, les gamins, on était vraiment vus comme des ploucs, quoi, faut dire les choses. Et donc, c'est sûr que...
C'est André... l'argument, en tout cas.
Ouais, et c'est sûr que André, quand il dit... ça ne venait même pas à l'idée de vouloir fonder une famille parce que tu sais que ce serait inévitablement le drame, j'ai peur qu'il ait raison parce qu'effectivement c'était pas attrayant de venir dans ces fermes qui étaient, pas moribondes mais en tout cas d'une agriculture déclinante. Donc même eux, en voulant faire une ferme très très moderne, ce qu'ils ont espéré, ils sont rincés au boulot pour pouvoir avoir cette ferme qui aujourd'hui fonctionne très bien. Mais c'est sûr qu'ils se sont rincés la santé, sacrifiés, pour qu'aujourd'hui il y ait une ferme qui fonctionne bien et que la génération d'aujourd'hui bénéficie finalement de tout ce travail. Grâce aussi au fait qu'on est dans une zone d'appellation d'origine protégée, Roblochon, qui fait que le lait est vendu et acheté aux paysans deux fois plus cher que le lait de plaine. Et c'est pour ça qu'on voit à quel point cette ferme fonctionne bien dans le film. C'est pas le fruit du hasard. C'est aussi une bataille collective pour instaurer cette appellation d'origine protégée. Et c'est ce qui permet aux agriculteurs, ce sont des choix, de continuer de vivre sur des territoires qui sont difficiles. Parce que c'est sûr que si le lait était livré au libre marché, ce qui est la tendance générale dans le monde, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus un paysan ni dans vos montagnes suisses, ni dans nos montagnes au Savoyard. Comment voulez-vous être concurrentiel avec les pentes, avec l'hiver, avec le gel, avec
le
réchauffement climatique? Évidemment que il n'y aurait plus un seul agriculteur dans les montagnes. Donc c'est par la règle, par les AOP, par des règles au niveau du commerce international et contre le libre-échange,
qui leur donne une protection aussi.
On peut préserver et protéger les agriculteurs, mais ça c'est vrai dans le monde entier.
Alors je rebondis sur vos propos, Gilles et Marion, enfin c'est surtout Gilles qui a parlé de Roblochon. Je dis pour les auditrices et les auditeurs qu'il y en a sur la table qu'on va déguster après l'interview. Mais mis à part ça, c'est aussi une question de transmission, parce qu'on voit que les nouvelles générations qui sont dans la ferme des Bertrands, que là ils ont pu constituer une famille d'une part, qu'ils ont pu équilibrer la vie privée et vie professionnelle grâce à tout ce qui a été fait en amont par les trois frères.
Oui, c'est évidemment. C'est aujourd'hui la jeune génération, et elle le dit dans le film. Ils doivent beaucoup aux trois frères, et ce sacerdoce dont Gilles parlait tout à l'heure, c'est vraiment ça qui fait que la famille peut bien vivre aujourd'hui avec un outil de travail performant. Et après, évidemment, ils ont repris et ils bossent aussi tout autant, mais avec de la mécanisation qui soulage un peu les corps, avec l'informatique. Mais c'est pour ça que je crois que le film il déconstruit aussi pas mal d'a priori, parce que le film commence par le robot de traite, mais finit avec la machine à patates ancestrale qui traverse le temps. Et on sent bien que c'est plus complexe que ça, et on n'est pas là pour dire c'était mieux avant. C'est l'histoire de l'agriculture, en tout cas à Quincy, c'est comme ça que ça s'est passé.
Et puis surtout, on montre que dans cette ferme-là, Et ben, la technologie n'est pas forcément l'ennemi de l'environnement, ce qui n'est pas forcément un discours qu'on entend souvent. Et c'est vrai que ben, voilà, dans cette famille-là, on est très précautionneux du territoire, respectueux des sols, de la terre, de savoir ce qu'on va transmettre, tout en étant mécanisé et tout en étant informatisé. Donc ça bouscule aussi de temps en temps les idées reçues aussi sur l'agriculture. Et moi, j'aime bien faire des films qui questionnent et puis que ben, ça suscite aussi la discussion après, quoi.
On mentionnait la connaissance des anciens, en particulier, par exemple, des trois fiers, quand ils nous font regarder les nuages, il y a le sens du vent. Et à l'époque, il y avait l'almanach, le messager boiteux. Et puis, vraiment, les paysans se basaient là-dessus. Ça s'est perdu parce que maintenant, tout est sur Internet, sur la télévision, la météo, les prévisions. Et ça, ils disaient, mais c'est plus fiable de se fier à la nature qu'à la météo.
Chez nous, il y a l'almanach savoyard.
Voilà. C'est peut-être le même, il n'était pas boiteux.
Oui, mais... voilà, je pense qu'on avait les mêmes choses. Voilà. Mais ils gardent les deux quand même. Oui. Ils sont marqués très souvent connectés à son téléphone, mais ils sont aussi toujours à l'affût de regarder ce qui se passe par la fenêtre quand même, et puis d'aller questionner André, les autres agriculteurs. Donc je pense qu'ils sont quand même dans un bon mix.
Ouais, c'est la preuve de leur connaissance et de leur savoir. Justement, par rapport à votre documentaire, on voit que y a la robotisation pour la traite et que la pénibilité du travail a diminué. Mais en même temps, ils ont beaucoup maintenant d'engagement parce qu'ils doivent suivre au niveau informatique, au niveau, par exemple, l'alimentation des vaches, tout se fait comme ça. Ouais. Donc, les journées de travail sont tout aussi longues.
Ouais, ben là justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont un peu moins longues maintenant qu'il y a les robots. Et donc, il faut le dire aussi, c'est que c'est un choix qui est délicat parce que c'est des gros investissements, mais comme c'est dans une ferme qui fonctionne bien, ils ne sont pas pris à la gorge financièrement. Et il ne faudrait pas croire que toute l'agriculture française est comme ça, bien au contraire. C'est vraiment parce qu'on est dans cette zone d'appellation que ça fonctionne comme ça. Et là, dans ce cas-là, les robots viennent vraiment soulager les corps et sans surendetter la ferme. Donc moi, ça me paraît assez intéressant. On ne peut pas se dire avoir envie de préserver l'humanité, les gens, la nature, et puis passer à côté de quelque chose qui éventuellement peut soulager les corps. Parce que ça ne s'est pas passé comme ça dans l'industrie où on a dit, ça y est, les robots sont là, les ouvriers vont être soulagés. Et en fait, les ouvriers, ils n'ont rien gagné du tout. Enfin, ils ont surtout perdu des emplois. Et puis, ceux qui sont restés, on les a pressurisés, on a compté le temps. Et de l'agroalimentaire, ou même de l'ouvrier d'industrie. Et donc, en fait, ils ont vraiment été pressés, stressés, avec des salaires et des formations qui n'étaient pas en adéquation. Et donc, ils n'ont rien gagné à la robotisation. Sauf que là, parce qu'ils n'étaient pas propriétaires de l'ouvrier outil de travail, donc les bénéficiaires de la robotisation n'ont pas été les travailleurs et les ouvriers eux-mêmes. Là, dans l'agriculture... En tout cas, dans ce type de ferme, comme ils sont propriétaires de leur outil de travail et qu'ils sont maîtres un petit peu des horloges, ils s'organisent un petit peu comme ils veulent, même s'il y a une charge de travail importante, ils sont, eux, directement bénéficiaires de la robotisation. Donc là, moi, ça m'intéresse. Après, on fera le bilan, on verra comment ça va, ce que ça va devenir au long cours. Mais ça, en tout cas, là, le constat, c'est qu'à partir de 6h du soir, on peut discuter avec Marc et Alex et que leurs femmes sont les premières surprises de les voir rentrer à la maison, ce qui, bon, c'est pas désagréable, je crois.
Et qu'ils peuvent apprécier les enfants, échanger avec eux.
C'est ça. Et c'est ce qui est sympa aussi dans cette famille, c'est que Marc, à la fin, il dit « mais nous, on veut pas grossir ». Ce qui est pas souvent, on n'entend pas souvent ce genre de discours. Normalement, il faut grossir, il faut bouffer les autres, etc. Eux, ils disent, nous, on ne veut pas grossir. Tout ce qu'on veut, c'est s'améliorer nos conditions de travail avec les outils qui existent pour que, justement, on ait une vie un peu plus conforme au reste de la société, une qualité de vie, et qu'on puisse passer du temps avec nos enfants, etc.
Je mentionnais l'agroalimentaire parce que dans la situation en Suisse, par exemple, les tomes qui sont normalement protégées, elles sont achetées à des prix bradés aux agriculteurs. Et après, les marges sont de plus de 70% en magasin. C'est pour ça que je pense que l'Europe Blochon, ça doit être aussi surveillé, parce que l'agroalimentaire a tendance à phagocyter et après faire des marges vraiment scandaleuses.
Nous, on discutait avec un ami viticulteur qui disait que c'était la même chose sur ce qu'il vendait aux restaurateurs et le prix qu'il trouvait à la carte dans les restaurants. Donc, oui, moi, je crois qu'il y a des choses qui doivent être remises en question. Et puis... pour que les agriculteurs vivent bien de leur travail, sans avoir des prêts à faire. Et j'espère qu'on arrivera un jour vraiment à trouver des politiques qui soient à la hauteur, quoi.
Alors, puisque Marion, vous mentionnez politique, on peut parler de ce qui s'est passé en France.
Oui.
D'ailleurs, ça a soutenu la sortie du film.
Ah, oui.
En Suisse, presque aussi, c'était synchronisé. Parce que là aussi, il y avait les agriculteurs qui se manifestaient. Qu'en est-il actuellement? Est-ce que, grâce à votre documentaire, les choses bougent un peu?
Alors, les choses n'ont pas bougé dans le sens où on aurait pu souhaiter. Enfin, les seules mesures qui ont été obtenues, c'est d'enlever des règles au niveau de la protection de l'environnement. Donc, on ne peut pas dire que ce soit très porteur d'avenir. Par une profession et par des syndicats qui sont comptables ouvertes au ministère de l'Agriculture depuis bien longtemps, qui est le syndicat majoritaire et qui est détenu par des gens de l'agrobusiness ou des gros céréaliers. Donc,
pas de conflit d'intérêts, apparemment.
Non, non, évidemment, il y a du conflit d'intérêts. Après, c'est toujours assez mystérieux de voir que des petits producteurs locaux comme chez nous sont adhérents de ce même syndicat qui est détenu majoritairement par, et qui ont, de mon point de vue, pas les mêmes intérêts à défendre. Mais donc, de fait, les agriculteurs n'ont encore pas gagné grand-chose, si ce n'est soi-disant un peu de simplification administrative. Ça, on ne va pas les blâmer. Mais au niveau environnement et au niveau des revenus, c'est encore pas gagné. Alors, mais par contre, ça permet de mettre sur la table, par exemple, un prix plancher, des choses comme ça qui étaient... C'était scandaleux, même Emmanuel Macron, qui est un libéral, disait « on ne peut pas dire ça », il y a encore quelques mois en arrière. C'était des thèses qui étaient défendues par la gauche ou par la Confédération paysanne. Mmh. Et puis là, tout d'un coup, il se dit « on va peut-être mettre des prix planchers ». Donc finalement, les mobilisations peuvent peut-être avoir un impact, on verra. Mais pour l'instant, ce n'est pas terrible.
Il espère changer la Constitution et être réélu une troisième fois.
Ben c'est ça. Ah ben c'est ça. On a un drôle de personnage à la tête de notre État, c'est sûr. Enfin drôle, je ne sais pas si c'est très drôle à vrai dire.
Oui, de loin. Pour revenir à la photographie que vous avez utilisée pour ce film, il y a des moments où c'est très pictural, quand les vaches pâturent. Ou, comment vous avez travaillé sur cette photographie?
Alors ça, Gilles, il est cadreur aussi à l'origine, donc je crois que c'est assez naturel chez lui. Il a la caméra souvent à l'épaule. Pour les cadres, quand c'est plus posé, il y a un pied, mais ça reste très minimaliste hein, comme tournage. Après, comme je le disais tout à l'heure, il aime beaucoup son village, et donc je crois que c'est lui qui arrive aussi à le magnifier comme ça, et il faut peut-être lui poser la question.
La luminosité, la lumière.
Ouais, moi j'aime bien filmer à toute saison, même quand il fait mauvais, c'est beau. Voilà, et puis surtout, moi j'aime bien filmer les gens que j'aime bien, et j'aime bien les filmer en action dans le travail. Et je me serais pas vu faire un film comme ça avec des gens que je connais bien en leur disant ben maintenant on va te poser sur un canapé, on va mettre du bel éclairage, et puis on va avoir des preneurs de son, une équipe, et puis maintenant tu vas me raconter ta vie, ton œuvre. Je pense que si j'avais adopté ce procédé de tournage, déjà ça aurait été une catastrophe, parce qu'ils n'auraient pas accepté, plus authentique. Et ça tombe bien parce que moi je suis pas à l'aise dans cet exercice là mais par contre je sais que quand je suis avec eux, que je discute avec eux, qu'éventuellement on m'entend parler avec eux sans me voir, y a une espèce de véracité qui transparaît, un rapport direct à la caméra et qui touche les spectateurs. Et souvent les spectateurs, ils nous disent dans les salles, ben, on a l'impression d'avoir passé une heure et demie dans la famille des Bertrand, et ben tant mieux. Ça veut dire que cette façon qui est effectivement assez minimaliste, elle peut aussi toucher les spectateurs. Donc, je suis content parce que c'est ce que je sais un peu faire, et je serais pas forcément à l'aise s'il fallait faire que des films qui soient plus contemplatifs ou plus posés, quoi. Il y a des gens qui savent très bien faire ça et c'est pas un jugement de valeur. Moi, je suis pas forcément très à l'aise.
Le côté contemplatif, on l'avait dans le regard d'André.
C'est ça.
Un peu. Et pour revenir à votre film qui a déjà connu beaucoup d'avant-premières en France, quel était l'échange avec le public?
Alors, des avant-premières et même plus, parce que là, le film, il en est à sa 11e, 12e semaine d'exploitation.
Mais le public, vous le rencontrez aux avant-premières?
Oui, on a fait à peu près 120 projections débat. C'est tout de suite beaucoup d'émotions. Quand les paysans, les agriculteurs présents prennent la parole, on est souvent au bord des larmes parce qu'on sent qu'ils sont touchés au cœur, dans les tripes. Ouais, c'est très émotionnel et puis ça fait ressurgir beaucoup, beaucoup de choses dans leur vie. Donc c'est pour nous, ce retour, il est merveilleux parce que c'est comme ça aussi qu'on conçoit faire des films, c'est-à-dire prendre le plus de vérité possible pour la ramener Elle a ramené aux gens quoi. Donc le pari est gagné. Après, il va même au-delà de nos espérances parce que là, on va arriver. On a dépassé 245 000 spectateurs.
Félicitations.
Et par rapport, ben merci, mais par rapport à un film documentaire, c'est vraiment exceptionnel et c'est le plus gros succès des films de Gilles pour le moment. Et bah, la rencontre s'est faite entre le film et le public. Et ben on est ravis quoi. Et même pour les gens qui n'ont pas un lien direct avec l'agriculture, on sent que ça a touché aussi parce que ben, c'est un monde qui ne laisse pas indifférent. Et on est quand même toujours en lien avec le monde qui nous nourrit, avec le monde qui fait aussi l'histoire nous ramène forcément la paysannerie à un moment donné. Donc ben cet écho-là, cette résonance, elle est super quoi.
Justement, avec l'agro-business ou l'agroalimentaire, on avait tendance à l'oublier, en tout cas à la faire taire. Pour revenir aux trois frères pour une vie, c'est aussi les trois frères pour une maison. Et André dit, ben, Joseph est parti le premier, les papiers ont profité. Puis Jean, il se retrouve seul dans cette maison, mais il est très entouré par le reste de la famille. Justement, la passation, elle se fait aussi à travers ce genre de message. Ce qu'il nous transmet, c'est tout ce qu'il y a eu comme labeur en amont. Et ben, forcément, ça les a usés.
Oui, ça les a usés, ils sortent rincés. Après, dans le film, on parle effectivement de cette question de transmission qui est très très présente. Mais forcément, hein, sur un film sur 50 ans, eh ben, y a des gens qui disparaissent et puis il y a des gamins qui arrivent dans la ferme. Ça raconte la vie. Mais en tout cas, c'est un des thèmes forts, cette question de la transmission et aussi du respect entre les générations. Puisque ce que je trouve bien, c'est que les jeunes, ils savent quand même d'où ils viennent et ils sont assez reconnaissants de cette génération précédente qui s'est vraiment usée au travail et ont laissé une bonne partie de leur vie et de leur corps, quoi.
Vous avez mentionné la réaction du public, je fais vite, on doit vous quitter. Vous avez l'avant-première ce soir au Scala. Vous avez mentionné la réaction du public. Est-ce que dans les hautes sphères, ça a réagi par rapport à votre documentaire ?
On a été sollicité pour faire une projection au Sénat en France. Moi, ma demande, c'est que ce ne soit pas à l'initiative d'un seul groupe politique. Et pour l'instant, on attend la date. Mais d'une manière générale, vous savez, les responsables politiques vont assez peu au cinéma. Ils sont très pris le soir.
Et les soirées.
Et même sur des questions qui sont très politiques, et ça, pour avoir fait des films qui, justement, sont assez politiques. Quand je dis politique, c'est pas politique politicienne, mais en tout cas, sur des questions de société fortes, on ne peut pas dire que les élus se bousculent dans les salles de cinéma. Voilà. Mais ils ont plein d'autres choses à faire.
Voilà, c'est non seulement sociologique, anthropologique, mais aussi politique.
Oui, forcément, le fond est forcément politique. D'autant plus dans cette période, quand même.
Merci beaucoup, Marion Richoux et Gilles Perret.
Merci pour la qualité de l'entretien.
Et on vous retrouvera peut-être pour un film de fiction ou un documentaire. Oui.
Bah, les deux.
Ah, les deux, les trois, les quatre. Félicitations.
Merci.